Bonjour et bienvenue dans ce 57e Quantum, le podcast de l'actualité quantique française et internationale. On est là toujours avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier.
Bonjour Fanny, joyeuse Pâques.
Oui, joyeuse Pâques. J'ai encore fait les cloches, tu me connais, hein. J'aime bien ça. Bon.
Les cloches quantiques, ouais.
Les cloches quantiques, ouais. Est-ce que ça résonne en intrication ou pas? Alors, on va commencer avec un mois de mars très très chargé encore. Ça ne s'arrête toujours pas, l'actualité du quantique. Je pense qu'on n'est pas près de l'hiver, on est vraiment au printemps. Et on commence avec le séminaire Innovax le 11 mars à Grenoble. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé dans le sud, dans la montagne?
Alors, Innovax, pour mémoire, c'est une fédération du CNRS qui regroupe des chercheurs en sciences sociales de l'innovation. Et ils faisaient un peu leur séance de clôture d'un projet qui avait démarré fin 2022, qui visait à faire un exercice de prospective et de ce qu'on appelle la design fiction quantique 2050, visant à imaginer la société qui pourrait être créée dans un futur assez lointain du fait de l'avènement des technologies quantiques. Moi, j'avais déjà participé d'ailleurs à leur lancement en novembre 2022, j'étais intervenu. Et là, donc, la séance visait à la présentation d'une vidéo qui présentait des scénarios futuristes sur l'impact des techno-quantiques. Alors, c'était vraiment très futuriste et très orienté politico et social, pas forcément très directement lié aux technologies. Et s'en suivait un débat avec les interventions remarquées, surtout sur scène d'Hélène Diamanti, qu'on ne présente plus, de Lipsis, de PCQT, de Startup Link, et qui était accompagné d'ailleurs d'une intervention de Robert Whitney, chercheur au CNRS du LPMMC et aussi de la QI, qui évoquait une question qui était posée par l'audience sur qu'est-ce que sera la consommation d'énergie des technologies quantiques. Ça complète en fait cet exercice à plus longue échéance et sur la dimension sociétale, le travail qui avait été fait par une équipe du CEA avec l'aide du cabinet de conseil en prospective futurible sur ce projet qui s'appelait Quantum 2042, qui visait plutôt à voir à quelle échéance on aurait des ordinateurs quantiques utilisables à grande échelle. Voilà.
Bon, donc un moment intéressant de prospective.
Oui, c'est en ligne, vous pouvez le regarder en ligne, vous avez le lien sur le replay YouTube.
Ok, alors après, on avait l'inauguration de l'ordinateur quantique de Candela chez OVH Cloud. Je vais garder ce coup-ci la main pour moi, Olivier.
Tu peux, tu y étais et j'y étais pas, donc
Voilà,
c'est
tu
bon.
n'y étais pas et en plus j'étais très impliquée dans l'event. Quand OVH Cloud a reçu son ordinateur quantique au mois d'octobre, il avait été commencé au mois de mars. Donc Candela a livré en 8 mois comme prévu son premier ordinateur quantique issu de son usine. Ça, c'était un des premiers challenges et annonces. Et puis surtout, ça nous a permis de montrer qu'est-ce qu'on allait faire de cet ordinateur quantique. Il a deux sujets importants. Le premier, c'est en effet de faire de la R&D avec les qubits et en particulier de la QRNG pour l'instant. Donc, de tester la génération de nombres aléatoires quantiques. Et puis, la deuxième partie, et qui était surtout la plus importante ce jour-là, avec la présence de Sylvie Retailleau, ministre de la Recherche et de l'Éducation supérieure, et puis de Marina Ferrari, c'était de mettre en avant le fait qu'on allait donner accès gratuitement alors, à tous les émulateurs quantiques qu'on a déjà, que ce soit celui de C12, de Pascal, de Candela, d'Alice and Bob et d'Eviden. Mais aussi que les meilleurs dossiers de ces écoles qui seront soumis pourront utiliser cette machine de Candela pour tester les algorithmes ou les projets si le besoin s'en faisait ressentir. Donc voilà, donc c'est donner accès à ce type de machine gratuitement pour pouvoir aider l'éducation à découvrir hein, et à mettre en avant ces technologies.
Il y avait du
Donc
monde,
voilà.
hein. Je sais pas, il y a qu'une centaine de personnes, un peu
Il y
moins.
avait une centaine de
Ouais.
personnes, en effet, une bonne partie de politique, beaucoup de journalistes. Ça a capté beaucoup d'attention et c'est bien de voir qu'il y a un vrai soutien des projets européens. Il y avait aussi Thomas Cordas de la Commission européenne qui était là et on avait aussi une vidéo de la ministre allemande de la Recherche. C'est important de montrer qu'il y a des vraies collaborations qui se font et puis qu'on est déjà en train de mettre tous les outils en place, hein, même si pour l'instant, en effet, ce n'est pas encore la puissance espérée. Ça permet vraiment de commencer à jouer avec toutes les briques et de découvrir où est-ce qu'on va. Et en tout cas, voilà. Donc, c'est un projet sur lequel je suis vraiment très contente parce que ça offre beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas simple, mais en tout cas, ça fait avancer les choses. Et c'est très positif. C'était un très beau moment.
Juste après, il y avait un événement où j'étais où tu n'étais pas, donc comme quoi on alterne bien. Il y avait le Quantum Enabling Technologies Workshop organisé à Télécom Paris le
Ouais.
21 mars. Alors, c'était une journée organisée par Systématique et le Lab Quantique sur une idée de Grégory Golf, qui est ex-ATEM maintenant, et que je remercie au passage, parce que c'est lui qui avait vraiment lancé ce projet. Elle réunissait une centaine de personnes aussi, issues de six startups du calcul quantique et un grand nombre d'acteurs des technologies habilitantes. Et l'idée, c'était de les faire travailler ensemble pour identifier un peu les white spots dans les technos habilitantes pour le calcul quantique. Donc, les startups ont exposé leur roadmap et leurs besoins, d'ailleurs de manière assez originale. Je n'avais jamais vu ça présenté sous cette forme-là, en tout cas. Et les secondes débattaient dans des ateliers sur la manière de répondre aux besoins des startups. Et c'était intéressant parce que j'ai découvert pas mal de startups que je ne connaissais pas ou de PME dans le domaine, par exemple, de la photonique, qui étaient un peu sous le radar jusqu'à présent. Qui permettront de compléter mon livre au passage. Et d'ailleurs, j'y ai fait une conclusion de la journée avec une perspective générale du marché des technologies habilitantes. Donc, c'était une première édition dans cet événement. Il y en aura d'autres, probablement à l'échelle européenne. Et donc, on peut féliciter les organisateurs qui sont bien sortis et la dynamique de travail d'équipe que ça a permis de générer.
Alors, une autre chose qu'on a faite et qui était importante, c'était un podcast avec Jay Gambetta, un décode quantum de plus d'1 heure qui est enfin publié sur French Web. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de tout ce qui s'est dit dans ce podcast pour qu'il donne envie à nos auditeurs de l'écouter, en sachant qu'il est en anglais
J'évite de
celui-là?
détailler. Il est en anglais. Ben, il y a un transcript en anglais dans mon blog. Ben, on y parle de beaucoup de choses et on y parle aussi bien de son passé, hein, c'est-à-dire d'où il vient, sa thèse, ses sources d'inspiration. L'histoire d'IBM dans le quantique, hein, qui n'a pas démarré il y a 10 ans, qui a plusieurs décennies au compteur. Donc c'est assez intéressant. Finalement, on a moins parlé du présent, même si on a détaillé pas mal de choses sur la quantum utility, qui est un sujet assez chaud chez IBM en ce moment, et sur leur roadmap, la manière dont ils veulent scaler pour créer des qubits logiques à grande échelle. Donc, on a balayé un peu tous ces sujets. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. On était un peu contraint par le temps. Et c'est déjà plus d'une heure. Donc, voilà.
Bon. Rappelle-nous quand même qui est Jay Gambetta, parce que on parle comme
Ah,
si tout le monde le connaissait.
c'est le vice-président d'IBM dans l'équipe de R&D d'IBM qui est en charge du quantique. Donc, il gère plusieurs centaines de personnes qui couvrent tout ce qui est quantique chez eux, en tout cas, calcul quantique. Je ne pense
Voilà.
pas qu'il couvre la cryptographie post-quantique, mais il couvre le hardware, le software, le business développement, les équipes sur le terrain dans les filiales. D'ailleurs, on avait rencontré Jay grâce à quelqu'un qui joue un rôle important en Europe, qui est Pierre Gégeur, qui historiquement était dans IBM France. Maintenant, il reporte à l'équipe de Jay Gambetta pour couvrir tout le continent européen en termes de business développement dans le quantique. Donc, c'est lui qui avait manigancé pour qu'on puisse voir Jay là-bas.
Donc oui, au centre de recherche près de New York. On continue avec les événements à venir. Le 5 avril, une conférence sur les atomes neutres au Collège de France avec Guido Pupilio, Monica Heidelberger, Thomas Avral, Thierry Lahaye, Benoît Vermeersch, Clément Savrin. Il n'y a pas d'inscription, c'est ouvert à tous. Olivier, est-ce que tu veux dire quelque
Oui,
chose
c'est
en plus?
vendredi 5 avril, ben j'y serai. Ça
Voilà, donc
sera.
si vous voulez voir
Mais quand vous
Olivier
nous
un peu
écouterez,
plus.
non, mais quand vous nous écouterez, ça aura peut-être déjà eu lieu, mais c'est une conférence comme le Collège de France on organise assez souvent. Donc je suis assez impatient d'y aller parce que ça ne m'arrive pas souvent de participer à une demi-journée entière sur les atomes neutres, dont on parle beaucoup en ce moment, notamment du fait des prouesses de QRA de décembre dernier.
Ouais. Et puis le 14 avril, vous aurez la Journée internationale du quantique et il y a un événement sur le sujet à Ljubljana en Slovénie. Olivier, est-ce que tu peux nous en dire plus? A priori, tu y vas.
Oui, enfin, la journée internationale du quantique, elle est dans tous les pays. Il y a
Oui.
probablement des choses qui vont se passer en France dont je ne suis pas forcément au courant. Mais moi, je serai à Ljubljana, en Slovénie, effectivement, ce jour-là. J'y vais 3 jours pour rencontrer des chercheurs, des startups et intervenir à 3 reprises, notamment ce jour-là, devant des politiques, des étudiants et du grand public, étudiants en sciences. Hein, donc, voilà, ce sera ma journée exotique.
J'en ai
C'est un petit
exotique.
pays, hein, c'est un petit pays de 2,5 millions d'habitants, mais bon, il y a quand même plusieurs laboratoires de recherche qui travaillent dans différents domaines. Alors, j'ai découvert qu'ils travaillent dans les atomes froids, ils travaillent en photonique, ils travaillent dans la matière quantique. C'est des sujets intéressants à creuser, donc compte rendu au retour.
Bon, on attend de voir ça. Un autre après-midi organisé par PCQT, l'écosystème quantique de Paris à Jussieu, c'est le 30 avril. Là aussi, est-ce que tu peux nous détailler?
Oui, bah c'est l'écosystème de Paris. C'est organisé notamment par Yordanis Karinidis et Enid Diamanti. Bah, je pense qu'ils vont faire le point sur les recherches quantiques à Paris à ce moment-là, quoi.
Ok, donc là aussi, un
J'y
petit
serai,
lien
j'y serai,
d'inscription
j'y
à
serai,
venir.
j'y serai.
Alors, un autre événement, Olivier, c'est le séminaire du pack quantique le 24 avril. GENSI, le lab quantique systématique et TerraTech organise, avec le soutien de la région Île-de-France, une journée de restitution des projets du pack quantique. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est que le pack quantique?
C'est un programme qui a déjà quelques années d'ancienneté, hein, qui vise à associer des startups et des utilisateurs
Oui.
pour développer des cas d'usage. Alors, ça peut être aussi bien des startups du côté du logiciel, comme Colibri TD, ou des startups côté matériel, comme Pascal ou Candela ou d'autres. Et donc, la région Île-de-France est cofinanceur de cette opération, et le GNC joue un peu le rôle de filtrage des dossiers, si je me rappelle bien. Et donc, ils font un séminaire sur de présentation, auquel je ne pourrais pas d'ailleurs assister, des projets qui avaient été lancés par le
Voilà, c'est
passé, quoi. Ouais.
restitution des projets et ça se passera donc dans les locaux
EDF.
d'EDF. Voilà,
Alors,
donc
c'est
ça.
un habitué des séminaires TerraTech, d'ailleurs.
Donc voilà, et puis bah, le 21 mai, dans les prochains événements aussi, vous aurez France Quantum à Station F. Les inscriptions sont ouvertes. Le programme va commencer à sortir tout doucement. On peut vous annoncer une keynote d'Olivier Ezrati sur. Le sujet de l'IA et du quantique, un peu plus en détail. Et puis, il va y avoir plein d'autres annonces qui vont arriver. Si vous voulez un billet, vous me faites un mail et j'enverrai les codes. Pas tout de suite, je sais que certains d'entre vous sont impatients. Ils vont arriver, vous inquiétez pas, vous aurez vos places. J'ai bien noté les demandes. Alors, on va passer à l'actualité France des startups avec Pascal qui a annoncé sa nouvelle roadmap. Olivier. Que va-t-il se passer dans la fameuse
C'est marrant
roadmap
parce
de
qu'il
Pascal?
y a eu une avalanche de roadmaps sur les atomes froids là, depuis le début de l'année. Je crois que le
Ah!
premier à tirer, ça a été QRA, qui, dans la lignée du papier de Michel Lukin là, de décembre dans Nature, a annoncé sa roadmap. Je crois qu'on en a parlé un des épisodes précédents.
Oui, bah c'était
Et
au moment
donc,
de TuTubi
Pascal,
qu'ils ont commencé à faire des annonces. Hein,
voilà.
donc.
Et il y a aussi Inflexion. Inflexion a aussi annoncé une roadmap, qui est un troisième larron des atomes froids. Et donc, Pascal a annoncé sa roadmap, qui intègre, alors de manière assez détaillée, à la fois les évolutions sur le modèle actuel de ce qu'on appelle la simulation quantique, ou l'ordinateur quantique analogique, et pour la première fois officiellement, ils ont présenté leurs ambitions du côté de ce qu'on appelle le gate-based, c'est-à-dire avec des qubits programmables, avec des portes quantiques, des circuits. Alors, ils se sont donné comme objectif d'atteindre 10 000 qubits physiques et quelques centaines de qubits logiques d'ici 2027. Ce qui est à la fois ambitieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de startups qui annoncent 100 qubits logiques dans 3 ans. Et
Ouais.
d'ailleurs, c'est en ligne avec ce que QRA a annoncé. Ce qui n'est pas étonnant, ce n'est pas qu'un copie l'autre, mais ils sont sur des technologies qui sont assez voisines dans l'esprit. Et donc, ce n'est pas absurde que les objectifs soient à peu près synchrones. Et donc, il y a une vidéo qui est associée à cette annonce. Que vous pouvez regarder, on vous donnera le lien, qui était YouTube en ligne et puis diffusé en différé. Donc voilà, ça fait suite aussi à l'annonce d'Ali Sandbob, dont on a déjà parlé, qui a annoncé aussi 100 qubits logiques avant la fin de la décennie.
Et donc, Alice and Bob, ils annoncent aussi un partenariat récemment avec Nvidia. Est-ce que tu peux nous en parler
Oui,
un petit
alors
peu?
c'est marrant parce que Nvidia, on en entend beaucoup parler, on en parlera plus tard d'ailleurs, parce qu'ils ont fait beaucoup d'annonces eux-mêmes de leur côté à leur GTC, qui est leur grande conférence développeur. Ils ont annoncé un partenariat avec Nvidia, en fait, qui est en liaison avec un autre partenariat existant entre Alice and Bob et Quantum Machines. Donc, Quantum Machines, c'est un fournisseur d'électronique de contrôle de qubits. Et il se trouve que Quantum Machines, depuis l'année dernière, est aussi partenaire d'NVIDIA. L'idée, c'est de faire en sorte que les serveurs DGX Quantum, qui sont assez un peu comme Captiva chez Evidence, c'est des serveurs qui sont construits avec des GPGPU, donc General Purpose GPU de NVIDIA, qui permet de faire tourner des émulateurs, mais aussi une partie des codes de correction d'erreur et de la partie classique du pilotage des qubits. Et ça va s'appuyer sur le chipset de GH200, c'est le Grace Hopper, qui est un très beau chipset de NVIDIA qui contient à la fois des cœurs ARM classiques et de la partie de réseau de tenseurs pour faire du calcul de matriciel. Et ça est associé à un système de contrôle de qubits qui s'appelle OPX+, qui est la dernière génération de Quantum Machines. Donc c'est logique qu'Alice and Bob élargissent son partenariat avec NVIDIA dans la mesure où NVIDIA est déjà un partenaire d'un de leurs fournisseurs.
Bon, et ils avaient une autre annonce, ils annonçaient la validation du projet L'usine à chat, miaou miaou, par le
Cat
Premier
Factory,
ministre
la
avec
Cat Factory, oui.
la Cat Factory, avec 14,5 millions d'euros d'aide par BPI France dans un projet IDEMO. Là aussi, tu as suivi de près hein, la construction de ce projet, je crois.
Ah ben j'ai suivi de près parce que j'étais expert pour BPI du
Oui.
dossier. Donc, ça remonte à l'été dernier. Comme j'ai signé un NDA avec BPI, je ne vais pas tout dévoiler. Mais maintenant que c'est public, il y a un communiqué de presse qui a été publié,
Qui est
etc.
public, Olivier?
Donc,
Dis-nous tout.
la partie qui est publique, je peux en parler évidemment. C'est un projet qui vise à accélérer la création d'ordinateurs quantiques à tolérance de panne d'ici quelques années pour obtenir 100 qubits logiques et surtout avec moins de ressources physiques que ce qui était déjà prévu initialement, avec les qubits de chat qui déjà avaient un avantage de ce côté-là. Donc en fait, c'est ça qui est lié d'ailleurs à une annonce qu'ils avaient faite avant, qui était l'idée de faire 100 qubits logiques avec 1500 qubits physiques. Et donc, ils ont comme ambition de réduire ce qu'on va appeler le footprint, qui est la quantité de qubits physiques pour faire des qubits logiques, et par la même occasion, de faire tout un travail d'ingénierie pour réduire la consommation d'énergie et le coût de toute l'électronique de contrôle. Donc tout ça, c'est lié. Donc c'est un très gros projet, je crois que c'est le plus gros projet collaboratif obtenu par une start-up française avec des deniers français. Je dirais le truc le plus voisin, c'est les 14 millions de l'ERC que l'équipe de Modvinet a obtenu en 2018, ou ouais, c'est ça, 2018. Sauf que là, c'est en France. Et il ne faut pas oublier que dans ce projet, il y a deux autres parties prenantes, qui sont l'équipe de Benjamin Huard à Normalsup à Lyon, dont on connaît les qualités dans le travail autour des qubits supraconducteurs, notamment avec Audrey Bienfait qui est dans cette équipe, et puis l'équipe de Zaki Lectas aux mines de Paris, qui est le compère de Mazyar Miraimi de l'INRIA, qui travaille sur la partie théorique et modélisation numérique des qubits, etc. Donc c'est un projet à trois parties prenantes, et c'est un très beau projet pour ce qu'elle est. Donc, dans cette histoire, j'étais un peu juge et juge, quoi. J'étais expert dans le truc. Je n'étais pas le décideur, mais j'ai aidé à.
Le Judge Dredd du quantique, ouais. Tu appliques.
Le quoi, tu dis?
Non, le Judge Dredd. Non, excuse-moi, c'est un vieux film
Dredd, je
avec
suis pas sûr.
Stallone.
Je connais ce film, mais je ne suis pas sûr que ce soit la référence pour ce genre de circonstances, quoi.
On passe à la start-up Victor. La start-up spécialisée dans la connectique et le contrôle de qubits a annoncé une levée de fonds en seed d'un montant non précisé. Qu'est-ce que tu peux nous raconter du coup sur cette levée de fonds?
Victor, tu te rappelles, on avait enregistré il y a à peu près un an un épisode de Décode Quantum avec Guillaume de Giovanni, qui est leur CEO et fondateur. C'est du seed, donc le fait que ce ne soit pas précisé, c'est souvent le cas pour du seed, parce que c'est des montants qui sont compris en général entre 1 et 2 millions d'euros, donc ce n'est pas des montants à 20, 30, 50, 100 millions d'euros. Donc c'est pour ça que c'est confidentiel. Mais ils ont une belle brochette d'investisseurs, et je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un que tu connais très bien, qui est Kima Venture, qui est le
Oui.
fonds d'investissement de Xavier Niel. Et par certains côtés, ça m'a surpris parce que Xavier Niel, avec qui j'avais discuté du quantique il y a quelques années, disons, s'était présenté à moi comme étant plutôt dans la catégorie des grands sceptiques du calcul quantique. Et là, je vois Kima qui investit dans une techno habilitante du calcul quantique. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est intéressant. C'est peut-être pas lui qui a décidé directement parce que Kima, ils investissent sur plusieurs dizaines de dossiers par an. Mais bon. Et il y a aussi Ludovic Perret, que tu connais.
Oui.
Ludovic Perret, ancien cofondateur de Crypto Next Security, et qui en plus de son rôle d'enseignant, est aussi business angel. Et donc, il a investi dans cette boîte-là. D'ailleurs, il m'avait appelé il y a quelques temps pour en parler. Et il y a aussi iX Core Group. Alors ça, ce n'est pas très surprenant. C'est la branche d'investissement du groupe iX Blue qui, pour mémoire, est la société qui s'appelait avant, donc qui s'appelle maintenant Exail et qui avait fait l'acquisition de Mucans il y a quelques années et qui est
Ouais.
basée à Saint-Germain-en-Laye de mémoire, là où justement Victor est installé, dans l'accélérateur d'iX Blue. Donc tout est lié.
Alors, on continue avec en dehors de France, une annonce d'un avantage quantique par D-Wave.
Oui, ben, c'est compliqué à analyser comme d'habitude. Il faut prendre avec des
Bah
pincettes les
attends,
avantages
Olivier,
quantiques.
je compte sur toi pour nous en dire plus que ça.
Ouais, oui,
C'est
oui.
un vrai
Alors,
avantage, c'est quoi?
ben, en fait, j'ai du mal à dire parce que ils ont un cas d'usage ultra précis de simulation de systèmes de spin magnétique qui donnerait un avantage quantique. Alors, le problème du spin magnétique, c'est très sympa. Bon, ça ne sent pas grand-chose pour les industries en général, mais surtout, c'est directement adapté au modèle de spin des qubits de flux de simulation analogique qu'on a dans les systèmes D-Wave. Donc, en gros, c'est un problème physique qui map quasiment directement avec le layout des qubits dans les systèmes D-Wave. Bon, donc on va dire qu'ils ont c'est le chemin de facilité, quoi. Mais il est possible aussi qu'un de ces jours, il y a un papier qui sort de chercheurs qui disent oh oui, on a fait la même chose sur un ordinateur classique. Ce n'est pas encore le cas, hein, comme avec IBM il y a moins d'un an. Mais il est difficile de généraliser ce genre d'avantage quantique sur un cas précis. Donc, je ne sais pas, j'ai du mal à dire. En tout cas, vous voyez le lien sur le papier si vous voulez le lire. Il fait 55 pages. C'est pas
Rien,
courageux, quoi.
55 pages quand tu t'es bouffé le bouquin d'Olivier Ezrati, c'est
Non, mais ce qui est
pas
rigolo, non, ouais, mais des fois c'est plus dur parce que c'est des papiers assez touffus, quoi. Non, mais ce
de
qui est
l'humour
intéressant, c'est que
aussi.
quand tu as une annonce comme ça qui sort, moi, je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook et Twitter, surtout et X. Et donc, ce qui est rigolo, c'est quand tu as un papier comme ça qui sort, tu as des gens qui réagissent du tac au tac, quoi. Et le malheureux CEO, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, de Barat, je crois, de D-Wave, quand il a sorti ça, il s'est fait bâcher un tas de physiciens en disant on nous l'a refait. Bref. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis circonspect, mais en même temps. Comme le modèle analogique de D-Wave, ce n'est pas le pire des modèles et que fait des choses relativement intéressantes avec, et que les simulations physiques ne sont pas très éloignées des modèles de spin qui sont simulés, je dirais, physiquement directement par la topologie des qubits de D-Wave, why not, quoi.
Alors, on continue avec 6100 atomes froids contrôlés chez Caltech, un record pour le contrôle de positionnement d'atomes neutres avec des pinces optiques, les fameux tweezers. Est-ce que c'est utile autant de qubits? Si.
C'est intéressant parce que c'est un record expérimental. J'avais vu un papier il y a quelques mois, dont j'ai oublié d'ailleurs la source, qui parlait d'un design pour contrôler 10 000 atomes. Et là, c'est 6 000 atomes, 6 100 atomes réellement contrôlés physiquement.
Ouais.
Ils sont positionnés un par un. Alors, il y a toujours évidemment un détail à intégrer, c'est qu'ils contrôlent la position des atomes, mais ils ne font pas de porte quantique encore dessus. Donc, l'étape d'après, qui est probablement un autre défi technologique, c'est de faire des portes à un qubit et à deux qubits dessus. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il est possible de contrôler un très grand nombre d'atomes. Et les atomes froids, ils ont un avantage par rapport à d'autres types de qubits, notamment solid state, c'est qu'ils sont tous pareils. C'est mis en avant souvent par les gens qui font ça, comme pour les ions piégés. Ils sont tous pareils, donc il y a moins de problèmes de variabilité d'un qubit à l'autre. Maintenant, après, il faut faire des portes qui marchent. Et ce qui est important d'ailleurs aussi, notamment pour voir si cette technologie est réutilisable chez Pascal ou chez les gens de QRA, c'est de savoir si ces atomes, on peut les déplacer rapidement. Parce que dans l'expérience qui a été faite par Michel Lukin en décembre dernier, ils déplacent les atomes un par un, par paire, pour faire des portes à deux qubits, puis après ils les remettent à la case départ. Et donc cette capacité à déplacer les atomes pour faire des portes à deux qubits, elle est très importante, parce qu'elle réduit notamment le coût de la correction d'erreur. Plutôt que d'avoir juste des atomes qui interagissent avec leurs voisins immédiats. Donc voilà, c'est une étape intermédiaire intéressante dans la voie vers le calcul à grande échelle sur des machines à base d'atomes froids.
Une autre annonce, c'est la fin prochaine mi-mai de l'accès à l'émulateur en ligne Qiskit. Alors, chez eux en
Chez
tout cas,
IBM, chez IBM, chez IBM, oui.
chez, voilà, exactement, chez IBM, comme tu dis, moi je dis chez IBM, ils recommanderaient de l'utiliser en local pour faire des émulations. Qu'est-ce que tu penses de ça du coup, hein?
On n'a pas discuté avec Jack Gambetta quand on était à New York,
Ah
je me
si, si,
rappelle.
moi j'ai débattu avec lui, mais
Je
et
sais que tu
d'ailleurs,
t'es battu
non, parce
avec
qu'on
lui,
va
donc.
faire, on travaille sur des choses qui vont,
Je me
qui
rappelle, je me
montrent
rappelle
qu'on
bien de
débat,
cette.
sur le
Je me rappelle
sujet.
de cette discussion. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter cette annonce. Il y en a une première qui est liée au fait qu'ils ont rendu l'accès à certaines machines qui ont jusqu'à 127 qubits gratuits
Oui.
dans IBM Quantum Experience. Donc, en gros, pourquoi utiliser un émulateur alors que tu peux avoir accès à une machine réelle? Ça, c'est la première raison. La deuxième, effectivement, c'est que IBM a envie de pousser les utilisateurs à tester des vraies machines, notamment avec de la mitigation d'erreurs, qui est la technique qu'ils pensent permettre de créer un avantage quantique pour certains types de calculs. J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être une troisième raison qui n'est pas documentée, qui est tout bêtement une histoire de coût. Parce que quand tu mets en place un émulateur qui supporte, je crois que c'était de l'ordre de 30 et quelques qubits chez eux, ça a un coût. C'est dans le cloud, ça a un coût. Et donc, peut-être qu'ils ont besoin de faire du cost-cutting et de réduire les coûts. Ils recommandent aux utilisateurs de faire ça chez eux, dans leur propre machine. Bon, ça rappellera d'ailleurs au passage que jusqu'à 30 qubits, tu peux émuler 30 qubits facilement sur un laptop. Tu n'as pas besoin d'un DGX, Nvidia, pour émuler 30 qubits. Hein. Donc, alors quand tu veux augmenter le nombre de qubits après, par exemple jusqu'à 30, 38, 39, 40, là, tu as besoin d'un cluster un peu comme ceux de Eviden avec Captiva. Mais 30 qubits, ça marche sur un laptop.
Oui,
Comme il y a très peu de gens qui
après.
développent des algos à 30 qubits, tu le fais en local, avec du Python, et puis voilà.
Bon, après, moi, je défendrai le truc que c'est bien de pouvoir avoir accès à différents émulateurs sur une même plateforme plutôt que de devoir désinstaller pour une histoire de place sur les machines et que c'est bien
Oui,
accessible.
avec des machines virtuelles toutes prêtes,
Des
que tu
notebooks.
proposes, toi, des
Exactement.
notebooks que
Je
tu proposes sur
protège.
OVHK. Oui, c'est. Mais toi, tu as une approche différente parce que toi, tu proposes l'accès à des émulateurs qui sont liés aussi aux
Très
architectures
différent.
matérielles comme
Ouais.
Candela, Pascal et compagnie, et C12. Donc, c'est des
Et si
approches
tu veux
complémentaires.
plus de qubits, aussi l'accès du coup à plus de qubits avec l'émulateur d'Atos, puisqu'on a la Captiva à 38 qubits aussi qui est en ligne, qui est accessible
Et
maintenant.
en fait, c'est ce que cette annonce-là, elle est un peu bizarre, mais elle est assez cohérente avec ce qu'on a entendu quand on était à Yorktown il y a un mois, quoi. Il nous disait bien.
Oui, lui, il
Qu'ils
pense
voulaient que les gens testent
que
les machines
physiquement,
hardware.
c'est plus intéressant d'aller sur le hardware et que la stratégie, ça va être de pousser les clients à aller coder. Moi, mon inquiétude, c'est de dire, pour commencer, ça fait cher de l'heure et que l'émulation, ça. On a longuement débattu sur le fait que.
Oui, mais attends, les 127 qubits sont gratuits. C'est ça qui change. Et ça, c'est depuis septembre dernier. Et c'est passé un peu discrètement.
Ouais, bon, écoute.
127 que je l'ai testé même, j'ai testé sur 2 qubits un petit code que je faisais là, à un moment donné. Et d'ailleurs, la file d'attente s'est vidée assez rapidement. Je n'ai pas eu à attendre très longtemps. Bon, c'était, je ne sais pas
Parce
quand,
que
au
pour
début
l'instant, il n'y a
d'année.
pas encore beaucoup de monde,
Mais.
mais quand il va y avoir plus de monde, ils pourront peut-être pas le laisser ou ça va peut-être devenir payant. Et voilà, donc à voir ce qu'ils vont faire dans les prochains mois.
On verra.
Mais c'est vrai que pour utiliser ce type de machine, ça passe. Annonce de la Commission européenne. L'Union européenne lançait le pacte quantique qui vise à garantir la compétitivité de l'Europe dans le domaine. Ça avait lieu lors d'un événement sur le Quantum Flagship du 22 mars à Bruxelles. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Olivier?
Ah, c'est dans la lignée de l'annonce d'une sorte d'alliance européenne de pays qui vont se coordonner un peu mieux que d'habitude. En fait, historiquement, tu as Quantum Flagship qui a été lancé en 2018 suite au Quantum Manifesto qui a été piloté par Tommaso Colarco qu'on a reçu dans des codes quantum. Et après, les pays ont annoncé leur stratégie chacun de leur côté, comme la stratégie nationale quantique annoncée il y a 3 ans chez nous. Et donc, l'idée de cette espèce de pacte européen, c'est de mieux coordonner l'Union européenne en tant qu'Union avec les États membres et leur propre stratégie. Et donc, d'ailleurs, le 21 mars, il y a 3 pays qui ont annoncé l'intention de signer cet accord, ce qui fait que maintenant, il y a de l'ordre de 21 pays sur les 27 États membres de l'Union européenne qui sont dans ce pacte quantique. Donc, tout le monde veut participer à la course, quoi. C'est logique. Il n'y a pas plus d'argent, par contre. C'est le détail, mais. Pour ceux que ça intéresse, c'est une déclaration d'intention de mieux se coordonner au niveau des États membres, mais je n'ai pas eu ouï dire d'un accroissement budgétaire ou des États membres ou de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs peut poser un problème sur la durée de vie des programmes, parce que bah là, en ce moment, on attend un peu de voir ce qui va se passer sur la stratégie nationale quantique en France. Elle a été lancée il y a 3 ans. Il faut qu'en gros,
Plan
ça
2,
continue dans la
plan
durée.
2.
Et il faut que ça continue dans la durée au-delà de l'actuel mandat présidentiel, parce que c'est une course de fond. Donc, on ne peut pas être uniquement aligné sur les calendriers électoraux. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a Proxima qui est planifié sur au moins 4 présidents différents, ou 3 présidents, puisque c'est censé durer 15 ans. Donc, tu vois, même si le prochain président est réélu, le remplacement de Macron, ça fera 3 présidents qui devront, entre guillemets, valider avec le Parlement le Proxima, en fait, en pratique. Donc, il faut que ça travaille dans la durée, tout ça. Donc, on attend un peu des nouvelles de ce côté-là.
Alors, on repasse du côté des Américains avec les annonces d'Nvidia et on repasse à Nvidia qui a fait pas mal d'annonces en mars autour des émulateurs quantiques lors de leur conférence donc au fameux GTC. Tu veux redétailler un petit peu ou?
Ouais, je vais vous donner les liens. Ils sont dans ces plein de choses, mais je n'ai même pas eu le temps de tout dépiauter. En fait, ils annoncent plein de trucs qui sont liés en gros, à l'infrastructure logicielle qui tourne sur leur GPU pour faire de l'émulation, voire même plus que de l'émulation, donc piloter des ordinateurs quantiques. Mais en fait, l'annonce qui m'a le plus frappé, moi, c'est le Blackwell 200, le B200 qui succède au H200, qui succédait au A100 qui suivait le V100, sorti en 2017. Bon, c'est la bagatelle de 208 milliards de transistors gravés en 4 nanomètres, chez TSMC, je crois, qui sont en fait étalés sur 2 plus de 104 milliards de transistors mis côte à côte. Et bah, c'est une bête de course qui permet d'entraîner des LLM encore plus rapidement qu'avant. Et c'est une bête de course générique, hein. Ça sert aux supercalculateurs, ça sert à faire de l'émulation de calcul quantique, ça sert à faire des simulations de toutes sortes, y compris des simulations chimiques d'ailleurs. Donc ça continue à. Il y aurait à appliquer la loi de Moore, à ce modèle de calcul.
Un autre sujet, Cerebras. J'étais en train de lire Cerebros, tu sais, l'X-Men
Non,
Marvel.
non.
Titi, faut donc Cerebras, ils annonçaient de
Encore
leur
influencé par
côté.
la science-fiction, toi.
Ah bah toujours, toujours,
Ouais.
une passion. Ils annonçaient de leur côté un processeur avec 4 trillions de transistors, le CS3 qui succède au CS2, qui faisait 2,6 trillions de transistors. Et il est adapté au grand LLM. À quoi est-ce que ça va servir, Olivier?
Alors, si tu comptes bien, ça fait l'équivalent de 20 fois le B200 dont tu viens parler en transistor, parce qu'on passe de
Ouais.
200 milliards à 4 trillions. Donc, c'est fois 20. Bah, c'est un processeur qui fait 21 cm de côté, c'est un carré dans un cercle, hein, dans un wafer de 300 mm. Et bah, c'est une grosse bête de course. Alors, ils ont publié des benchmarks qui ils pouvaient entraîner des LLM de je ne sais plus quelle taille, genre 10 fois plus gros que GPT-4. Avec leur processeur.
On va avoir
Non,
une AGI, truc de dingue. Non, je
mais
déconne.
le pire, c'est qu'au même moment, ils ont annoncé un supercalculateur qui est basé là-dessus. J'ai oublié combien de procs ils mettent dedans, mais c'est du genre 128. Donc, c'est le plus gros processeur du monde qui est vendu à l'unité ou en supercalculateur. Alors, genre, à part le DOE aux États-Unis, je crois qu'il n'y a personne qui l'achète parce que ça coûte, je ne sais plus, un peu moins d'1 million de processeurs, mais c'est une bête de course. Je crois qu'elle a été testée en France. Je ne sais plus si c'est pas Total ou EDF, je ne me rappelle plus, mais. Mais c'est une bête de course très intéressante. Elle a une caractéristique qui est très impressionnante, c'est qu'elle a un cache intérieur qui est de l'ordre de 40 et quelques gigas de RAM. Alors que le cache des Blackwell là, de Nvidia, je ne sais plus combien, c'est de l'ordre de 100 à 150 mégaoctets. Là, il y a 40 gigaoctets de cache dans le processeur, ce qui fait que tu peux charger une grosse partie d'un modèle de machine learning dans le processeur. Et éviter les allers-retours avec la mémoire externe qui est en général développée, enfin, créée avec un système qu'on appelle le HBM3E, qui est un protocole, disons
T'es en
un
train de me
standard
caler
de
quand même
mémoire.
des t'es en train de me caler
Les acronymes.
des news IA dans le quantique.
Lui, c'est un lien.
T'as
C'est
un
un
lien.
lien parce que, un, c'est la concurrence du quantique qui continue à évoluer. Il faut savoir que tout ce qui est basé sur du quantum inspired et des réseaux de tenseurs peut s'appuyer sur ce genre d'architecture. Donc, en fait, si tu as une puissance hardware classique qui augmente, qui est exploitée par des gens qui ont des réseaux de tenseurs, ça augmente la puissance du Quantum Inspire. Donc, en fait, c'est lié, quand même.
Bon, fallait bien que je taquine un peu.
Tu as raison, tu as raison.
Allez, on
Vas-y,
passe à la
vas-y.
start-up australienne Coca, qui lançait un émulateur supportant 30 qubits sous forme d'un appliance avec un processeur quad-core de smartphone et 4 Go de RAM, rien que ça, destiné à l'enseignement. Pourquoi ne pas se contenter du coup de son propre laptop pour cela, Olivier?
Je me demande bien, parce que ce truc-là, non mais c'est un peu comme si tu lançais une montre connectée qui fait du calcul quantique, quoi. Le machin, il fait, je crois, 7 cm à 8 cm de diamètre, c'est un petit cylindre. Tu le branches
Ouais.
avec un USB sur ton PC, et en fait, il est moins puissant que ton PC. En général, quand tu ajoutes un truc à l'extérieur à ton PC, c'est que ça rajoute un truc que tu n'as pas déjà. Genre, c'est rare que tu aies un laptop sur lequel tu mets une carte son, par exemple, comme on faisait avant dans les vieux PC où tu avais une carte son ou une carte Ethernet quand il n'y avait pas d'Ethernet dans le PC. Mais là, tu
Ouais.
rajoutes un truc de 4 Go de RAM qui a un processeur quad-core qui est moins puissant que ton Intel ou ton AMD qui est dans ton laptop. Donc moi, déjà, en informaticien, je ne comprends pas. Premier point. Alors, l'histoire de la société est rigolote parce qu'elle a été créée par un certain Chris Ferry. Je connais parce qu'on m'a offert à mon anniversaire il y a 3 ans un livre qu'il a écrit qui était Quantum Computing for Babies. J'avais rien compris d'ailleurs quand j'avais lu le bouquin. La manière dont il expliquait les qubits dans ce bouquin, c'était incompréhensible. Alors, en fait, c'est un gars qui a envie de démocratiser l'accès à des émulateurs quantiques pour apprendre à coder. Je pense que l'idée est bonne. L'idée de démocratiser l'accès à la programmation quantique, elle est bonne. Mais je ne suis pas sûr que vendre une appliance hardware. Ce soit la bonne méthode. Alors, c'est un projet qui a été lancé sur un truc que dont tu as souvent entendu parler il y a 10 ans, sur Kickstarter. Alors, je ne pense pas que les gens du quantique ils connaissent Kickstarter, parce que Kickstarter, on a
Oh.
connu, nous, parce que dans le quantique, je parle du
Oui,
quantique,
oui, oui.
dans Kickstarter, tu en entendais parler il y a 10 ans au sujet des objets connectés. Donc, plein de boîtes qui lançaient un objet connecté, ils mettaient leur projet sur Kickstarter, qui est un endroit où en gros, tu vends des précommandes à des utilisateurs, où tu vends des goodies, et les gens, ils te payent. Dans l'espoir qu'un jour tu vas livrer la machine. D'ailleurs, il y a plein de boîtes françaises qui se sont pris les pieds dans le tapis en livrant pas ou en livrant en retard. Je ne les citerai pas, mais tu t'en rappelles. Et donc là, ils ont 121 backers avec 36 000 euros de levée.
Écoute,
Bah, on leur souhaite bonne chance. Hein. Voilà quoi.
c'est un
Livraison
début,
en
écoute.
juillet. Non, mais livraison en juillet. Alors, moi, j'ai un conseil à vous donner. Le truc est bien parce qu'il supporte 30 qubits. Alors que Quark, qui est un truc en JavaScript qui marche sur votre navigateur, qui est gratuit, supporte que 16 qubits. Donc, si vous avez des ambitions d'apprentissage du code quantique avec du code qui va entre 17 et 30 qubits, vous pouvez précommander ce truc qui est à 300 $, je crois,
Ou venir
pour.
chez OVH Cloud.
Sinon, tu peux aller chez OVH Cloud ou utiliser le Qiskit en local ou aller chez Eviden.
Bon.
Ça montre qu'il y a beaucoup d'offres sur l'émulation.
Ok. Bon, et sinon, ton bullshit du mois, ça faisait longtemps. Hein. T'as les cheat
Ah mais ouais,
meals pour certains, toi, t'as ton
j'en ai
bullshit quantique
tous
du
les
mois.
jours, j'ai un bullshit. Hein. Et je ne te parle pas des bullshits du 1er avril qu'on a eu cette année, hein, parce que j'en ai vu. Il y a un gars qui a publié un papier pour démontrer que Dieu existait grâce au quantique, mais c'était du bullshit, c'était exprès, c'était du 1er avril. Et les mecs, à la fin, ils ont si j'étais mort de rire. Ils terminent le papier en anglais en disant ce papier n'a pas été financé avec de l'argent européen, parce que d'habitude, on est financé avec de l'argent européen et on vous promet qu'on l'a fait sur notre temps libre. Alors, le bullshit, c'est un article paru dans i3e Spectrum, qui est quand même une revue sérieuse, quoi. i3e, c'est sérieux. Et alors, le titre, c'est, je vais le dire en français, c'est « Voilà les 6 études de cas réelles pour des ordinateurs quantiques à court terme. Alors, here are the 6 actual uses for near-term quantum computers. » Tu lis ça, tu te dis « Waouh !» Bah, ça n'a pas loupé. J'ai lu le papier, j'ai regardé toutes les études de cas que je connaissais, j'ai cliqué sur les liens. Et toutes sont des études de cas de tolérance de panne avec des millions de qubits physiques. Cherchez l'erreur.
Eh bien, écoute, nous allons clôturer cette 57e édition de Quantum, si je ne dis pas de bêtises, pour se retrouver le mois prochain avec encore de l'actu, toujours de l'actu et encore de l'actu. On a surtout vu le nombre d'événements qu'on vient d'annoncer, on aura de quoi raconter des choses. On vous remercie de nous suivre encore et toujours et à très vite. Salut Olivier.
Et on se retrouve à France Quantum le 21 mai.
Aussi.